Bienvenue dans l'atelier des médias. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène de société que seuls les auditrices et auditeurs de podcasts ont pu remarquer. Vous le savez, ça va bientôt faire 20 ans que la technologie du podcast ou de la balado-diffusion existe. Mais c'est seulement depuis 24 ou peut-être 36 mois qu'elle connaît, dans le monde francophone, une véritable effervescence. Il ne se passe plus un jour sans qu'un ou plusieurs projets audio n'annoncent leur naissance. Et parmi les thématiques choisies par ces nouveaux venus, il y en a une qui revient très fréquemment. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, plus communément appelé féminisme. Pourquoi le féminisme, longtemps considéré comme trop militant pour mériter un traitement journalistique, est-il aussi présent dans ce nouveau média? C'est la question à laquelle Mathilde Saliou a voulu répondre. Pour ce faire, elle a interrogé quatre productrices de podcasts féministes. Lorraine Bastide, la pionnière, Siam Jibril, Charlotte Bien-Aimée et Victoire Toyon.
L'atelier des médias, Ziane Malouf.
Le podcast, c'est un espace, en fait, je trouve, où on peut valoriser les voix les plus invisibilisées dans la société. Et je pense que c'est pas un hasard s'il y a autant de podcasts féministes, mais il y a aussi beaucoup de podcasts qui se sont créés sur les identités, par exemple, d'afro-descendants, sur les questions LGBT. Je pense que le podcast, et surtout en France, j'ai l'impression, a très vite compris qu'il pouvait venir pallier au manquement des médias généralistes.
Je pense qu'en fait, c'est parfait pour notre époque. C'est-à-dire qu'on a envie de profondeur, mais en même temps, on n'a peut-être pas envie de s'asseoir pendant une heure à lire un article. On est en train de courir, on est en train de cuisiner, on est dans le métro, dans l'avion. Donc je pense que ça correspond, c'est un usage en tout cas qui va bien avec notre époque, je pense.
Souvent, on nous dit le féminisme, c'est pas un sujet en soi. Enfin, ou c'est un engagement, ou c'est du militantisme. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission spécialisée encore ou de rubrique spécialisée dans les journaux. Alors que, encore une fois, on parle des relations hommes-femmes. On parle, et puis après, on essaie de donner la parole à la moitié de la population qui l'a quand même beaucoup moins.
Oui, en fait, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite, qui est mais pourquoi c'est une femme qui questionne les masculinités? Est-ce que ce serait pas aux hommes de le faire et tout? Je lui ai dit bah oui, bien sûr. Le truc, c'est qu'ils le font pas, en fait. Ils le font pas, en fait. Ils le font pas, en fait. Ils le font pas, en fait.
Quand le féminisme rencontre le podcast, une émission de Mathilde Saliou, production Ziad Malouf, réalisation Simon Decreuse.
RFI.
Cela fait quelques années que je m'intéresse au féminisme. Pour en savoir plus sur le sujet, je lis des médias spécialisés, mais surtout, j'écoute des podcasts. À tel point qu'il m'est arrivé quelquefois de me demander si, en France, ces émissions de balado-diffusion n'étaient pas en train de devenir le média de la troisième vague féministe. Mais laissez-moi rembobiner. Au début du XXe siècle, une première vague féministe a traversé le monde. Parti de Grande-Bretagne, le mouvement des suffragettes touche la plupart des pays voisins, qui, les uns après les autres, accordent le droit de vote aux femmes. Vient ensuite la deuxième vague, celle de la libération des corps et des sexualités. C'est l'époque, en France, de l'obtention du droit à l'avortement, en 1974, ou encore de l'accession au divorce par consentement mutuel.
L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé à un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la transformation d'un nouveau consensus social. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
Depuis le milieu des années 90, nous traversons ce que des chercheurs appellent la troisième vague. Cette fois, il s'agit de faire reconnaître l'intrication des inégalités de race, de classe et de genre. C'est ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Il est question aussi de faire comprendre que les inégalités subsistent dans la sphère professionnelle, mais aussi dans celle de la famille. Mais pour qu'on reconnaisse ces inégalités et que la situation change, il faut réussir à ce que les médias de masse, qui reflètent la société, prennent conscience du problème. Mais comme dans les autres sphères, les femmes y sont aussi moins représentées que les hommes. Et c'est là que, depuis peu, les podcasts entrent en jeu.
Moi, mon féminisme est né de mon métier. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai lu ce chiffre dont je ne me remettrai jamais. Le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 22%. Rien que ça, je pense que ça suffit d'avoir envie de lever le poing et de prendre des fourches et de partir manifester. Enfin, je trouve ça délirant, en fait. On est la moitié de l'humanité et non, on ne parle que 20% du temps dans les médias, tout confondu.
Elle, c'est la journaliste Lorraine Bastide, la créatrice du podcast La Poudre.
Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à creuser les questions féministes. C'est-à-dire, bon, évidemment, j'étais pour les droits des femmes avant, etc. Mais j'ai commencé à m'interroger sur l'invisibilisation des récits de femmes, que ce soit dans l'histoire, dans l'art. Enfin, voilà, les médias, c'est la partie émergée de l'iceberg, quoi. C'est quelque chose qui remonte tellement à des mécanismes qui sont tellement anciens que je cherchais, en fait, comment faire pour mettre en avant des voix de femmes. Et le podcast, c'est l'outil idéal pour ça. Voilà, et l'idée du podcast m'est venue le jour où je me suis dit, en fait, j'ai fait un an à la télévision, dans une émission de grande écoute, voilà, un plateau qui s'appelle Grand Journal, bon, où généralement les gens qui venaient avaient un temps de parole de 3 minutes, et encore moins quand c'était des femmes. Et je me disais, mais en fait, il faudrait un endroit où les femmes puissent parler pendant une heure sans être interrompues. Et comme j'écoutais beaucoup de podcasts, je me suis dit, mais en fait, le podcast, c'est parfait pour ça. Si moi, je décide de créer un podcast où pendant une heure, on n'interrompt jamais la femme qui parle, bon, bah, ça peut exister, c'est facile, c'est pas compliqué, quoi. Et voilà, le podcast, en plus que la presse écrite, il y a plus de place. Si on retranscrivait tous les interviews de La Poudre en papier, ça ferait des bouquins à chaque fois. Donc voilà, c'est, je pense, le média où finalement la voix se déploie avec le moins de contraintes. Parce qu'en plus, bon, la radio, c'est un magnifique média aussi. Mais avec le podcast, on se libère des contraintes aussi d'antenne, d'horaire, de longueur d'émission, d'identité de la chaîne sur laquelle on est diffusé, etc. Donc c'est un espace, en fait, je trouve, où on peut valoriser les voix les plus invisibilisées dans la société. Et je pense que c'est pas un hasard s'il y a autant de podcasts féministes, mais il y a aussi beaucoup de podcasts qui se sont créés sur les identités, par exemple, d'afro-descendants, sur les questions LGBT. Je pense que le podcast, et surtout en France, j'ai l'impression, a très vite compris qu'il pouvait venir pallier au manquement des médias généralistes.
Allez, en place. C'est La Poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Donald Trump.
Qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque.
La Poudre, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des femmes qui m'inspirent. J'ai reçu des femmes, par exemple, ministres. J'ai reçu Najat Vallaud-Belkacem quand elle était encore ministre de l'Éducation nationale. J'ai reçu également Marlène Schiappa, ministre des droits des femmes. J'ai reçu des écrivaines, des écrivaines immenses comme Léonora Miano, Aïssa Maïga, comédienne, Assa Traoré, qui milite pour la mémoire de son frère Adama Traoré.
Comment tu les choisis? Qu'est-ce qui fait que tu les as invitées, elles et pas d'autres?
C'est une alchimie assez particulière. J'arrive pas encore vraiment à décrire ce qui fait qu'une invitée est La Poudre, mais par contre, je sais avec certitude quand une femme est La Poudre ou pas. Il y a quand même une condition primordiale, c'est que je veux mettre à un moment donné pris une claque par son travail, par une de ses œuvres, par un de ses accomplissements. Voilà, en général, il y a forcément une forme d'admiration à la base de mon invitation. Après, il peut y avoir des désaccords. Par exemple, il y a beaucoup de prises de position. J'ai reçu Ramayad dans La Poudre. Voilà, c'est une femme de droite qui a été sarkozyste. C'était pas du tout mon positionnement politique. Mais n'empêche que, quelque part, j'admire son parcours. J'admire un certain nombre de combats qu'elle a portés. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis... J'essaye aussi beaucoup de diversifier, c'est-à-dire voilà, je j'ai pas envie que dans La Poudre ne s'exprime que des femmes qui me ressemblent, sinon c'est pas drôle, sinon ça s'appelle le magazine Elle, et j'y officiais pendant longtemps, et c'est justement pour ça que j'en suis partie, parce qu'il y avait que des femmes qui me ressemblaient représentées dans ce journal.
Et c'est-à-dire qui te ressemblent?
Bah, des femmes blanches hétérosexuelles avec un milieu, voilà, venues d'un milieu un peu bourgeois, qui vivent à Paris. C'est pas c'est malheureusement l'image des femmes qui est complètement dominante, par exemple dans la presse féminine, puis dans les médias en général. Mais c'est pas, ça représente pas du tout les femmes françaises qui sont d'origine variée, de religion variée, de sexualité variée. Et c'était l'une des missions, en tout cas, que je m'étais octroyée avec La Poudre, c'est de représenter des femmes différentes, pour que les jeunes femmes en particulier qui écoutent l'émission puissent s'identifier à certaines. Et aussi parce que je trouve intéressant de se rendre compte qu'on peut avoir des points communs avec des femmes qui justement n'ont pas forcément le même background que nous.
De sa voix douce, Lorraine Bastide fait raconter à ses invités leur enfance, leur parcours, pour tenter de comprendre ensuite comment elles sont devenues artistes, entrepreneurs ou politiques. Et une des marques de fabrique de son émission, ce sont ses questions rituelles. La journaliste s'inspire par exemple de la célèbre citation « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, l'auteur du Deuxième Sexe.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
Autre interrogation récurrente, en référence à Une chambre à soi, une autre œuvre majeure du féminisme signée par l'écrivaine britannique Virginia Woolf, Lorraine Bastide demande à ses hôtes si elles ont un espace à elles.
Quand j'ai pensé l'émission La Poudre, j'avais une espèce d'envie de passer toutes ces femmes qui ne se revendiquent pas forcément féministes, même s'il y a quand même une grande majorité d'entre elles qui acceptent l'étiquette, je voulais les passer un peu au tamis féministe. Et j'ai pris en fait des références dans des livres qui sont les livres fondateurs de la pensée féministe, qui sont ceux par lesquels on commence toutes, ceux par lesquels moi j'ai commencé en tout cas, et justement de confronter ces théories-là au réel, au vécu. Voilà, c'est pour ça que j'ai conçu ces questions-là. Et la récurrence, le fait de poser la même question à des femmes différentes, ça permet à la fois d'afficher les différences, mais aussi les points communs, et de voir qu'on ne retrouve pas les points communs auxquels on s'attendait en fait, de l'une à l'autre. Enfin, ça fait vraiment un tableau extrêmement riche. C'est pour la même raison que je pose à chaque fois la question à toutes, ça représente quoi pour vous La Poudre? Ça évoque quoi pour vous La Poudre? C'est incroyable parce que jamais j'ai eu deux fois la même réponse. Et ça montre que la polysémie du mot, qui était intuitivement ce que je cherchais, la raison pour laquelle j'ai appelé l'émission comme ça, elle est encore plus vaste que ce que j'imaginais. Et c'est un petit peu ça aussi la leçon de La Poudre, c'est-à-dire que les façons d'être une femme, les façons d'envisager sa féminité, sa construction, son rapport à sa féminité, même si je mets plein de guillemets autour de féminité, ils sont aussi variés, aussi nombreux qu'il y a de femmes.
Oui, mais j'allais te demander justement pourquoi tu l'as appelée La Poudre à l'origine, cette émission.
Je l'ai appelée La Poudre parce que j'aimais bien l'ambivalence du mot. La Poudre, si on y réfléchit vite fait, on peut se dire maquillage, on peut se dire rose poudrée, on peut imaginer quelque chose de très, très cosmétique, très inoffensif, de très féminin, avec encore des guillemets. Puis on peut aussi penser à la cocaïne, on peut aussi penser à la poudre à canon, on peut aussi penser à des choses qui explosent, qui font mal, qui font référence à la guerre. Ça c'est si on creuse un peu. Après on peut voir les choses aussi à l'inverse. Mais en tout cas, pour moi, ça a représenté un peu deux facettes. Deux choses que j'avais envie de dire sur les femmes, c'est-à-dire peut-être pas se fier trop aux apparences, et aussi avec le côté un peu provocant que j'assume, que j'aime bien.
Et pour revenir aux deux questions dont on parlait avant, tu as dit toi-même que ça t'avait surpris de voir où étaient les points communs ou les différences.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a marqué que tu pourrais nous dire, par exemple?
Moi, les récits de migration, je les trouve importants. Parce qu'on les entend pas beaucoup, en fait. Parfois, certaines de ces femmes l'ont vécu elles-mêmes. Parfois, elles racontent la migration de leurs parents. C'est toujours des souffrances, en fait. C'est toujours des arrachements, c'est toujours des exils, c'est toujours des nostalgies, c'est toujours des non-dits. Je dis c'est toujours, mais évidemment, c'est unique à chaque fois et aussi. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté et beaucoup enrichi. Il se trouve qu'en plus, La Poudre, j'ai commencé à le faire il y a 2 ans. Et c'est vraiment un moment où tout le récit médiatique autour des migrations a beaucoup basculé. On s'est malheureusement habitué à toutes ces images de bateaux sur la Méditerranée, etc. Et je pense que c'est tellement important de remettre du récit individuel derrière ces histoires-là. Et c'est aussi l'un des objectifs de la poudre, hein, c'est-à-dire d'arrêter de simplifier en fait les choses. Ça n'existe pas les migrants, quoi. C'est à chaque fois des histoires uniques où il y a de l'amour, de la mort, de la peur, de l'espoir, un milliard de choses qui se racontent derrière. Et je crois qu'on n'entend pas ces histoires-là si on ne s'assoit pas une heure avec quelqu'un face à soi pour les entendre. Et voilà, et en racontant ça, j'ai à l'esprit Latifa Ibn Ziaten, qui, je pense, est l'interview que j'ai faite qui m'a le plus affectée, plus bouleversée sur le plan émotionnel. La mort d'Imad a fait la une des médias. On a eu tous les détails, la conversation qu'il a eue avec son assassin avant de mourir. Il y a même eu des images, des reconstitutions 3D, des photos des taches de sang sur le bitume, le visage de son assassin souriant sur les vidéos. Et à chaque fois qu'on vous reçoit à la télévision, on vous remet ces images devant les yeux. Et moi, je me demande comment on supporte ça, le fait de devoir vivre son deuil en public. Comment on fait ?
Vous savez, c'est difficile, mais quand c'est de vivre ça, je souhaite à personne. C'est très difficile. Mais quand je vois ce jeune de 23 ans sourire, mais là, il sourit, mais il a une souffrance derrière. C'est une victime de la société. Il ne faut pas le cacher, il faut dire la vérité. Parce que quand je suis son parcours, je dis, mon Dieu, quelle vie qu'il avait ce jeune. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est la réalité. Je suis une mère. J'ai 5 enfants, j'aime mes enfants. Alors je voyais ce jeune, il n'était pas aimé. Il n'avait pas de l'amour, il n'était pas cadré. S'il avait vraiment de l'amour d'une mère, d'un père, des frères, lui, il sera là et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas ça. Il n'avait que de la haine, de la souffrance, et souriait. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui que je croise, ils sont comme ça. Ils souffrent, mais ils se montrent forts. Mais ils ont peur au fond d'eux.
La Poudre entame sa 3e saison le 6 octobre prochain. Après avoir interviewé 34 femmes françaises, Lorraine Bastide a décidé d'élargir le champ de ses inspirations en partant à l'étranger.
Human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
Aujourd'hui, dans l'atelier des médias, quand le féminisme rencontre le podcast, une émission signée Mathilde Saliot.
Dans Génération XX, Siam Gibril interroge ses invités sur leur manière d'affronter les hauts et les bas de leur vie d'entrepreneur. C'est une façon de montrer que chacun ou chacune peut porter un projet personnel ou professionnel.
Je m'appelle Siam Gibril, j'ai 26 ans et en février 2017, donc il y a à peu près un an et demi, j'ai lancé Génération XX, qui est donc un podcast dans lequel je reçois des femmes qui entreprennent. Je prends le mot entreprendre au sens large de monter un projet, donc ça peut être un projet d'entreprise, un projet associatif, un projet créatif. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la démarche de ces femmes, pourquoi elles ont monté ce projet, comment elles prennent leurs décisions, quelle est leur ambition, comment elles gèrent le succès, quels sont les hauts et les bas. Voilà, et l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation qui est sincère et bienveillante.
Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi et de Mangopé. Litchi, c'est le leader de la cagnotte en ligne en Europe. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà organisé une cagnotte sur Litchi pour faire un cadeau, organiser un voyage à plusieurs ou soutenir une cause. Quant à Mangopé, c'est une technologie qui permet de gérer facilement les paiements entre utilisateurs pour les marketplaces et plateformes de crowdfunding et d'économie collaborative. Dans cet épisode, Céline nous parle de ses différentes activités, de dirigeante de Litchi et Mangopé, de business angel et de membre de comité d'administration. Elle nous raconte comment l'idée de Litchi lui est tombée dessus et ne l'a plus jamais quittée, de sa vision de la réussite, de l'organisation en entreprise et de pourquoi elle souhaite que plus de femmes deviennent entrepreneurs. Très bonne écoute! J'ai lancé ce podcast parce qu'à un moment donné, on m'a proposé de monter une boîte et que du coup, j'avais envie d'entendre en fait des témoignages de gens qui s'étaient déjà lancés. Donc, j'ai écouté pas mal de podcasts américains. Donc, c'était en 2016. J'ai écouté des podcasts comme Girl Boss, comme How I Build This. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé pas mal de réponses. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas encore trop de podcasts là-dessus en France. Enfin, même pas du tout. Donc, pourquoi pas me lancer?
Est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'invités et nous expliquer comment tu les choisis?
Alors, ce qui m'intéresse quand je choisis mes invités, c'est d'avoir une diversité d'âge, de parcours, d'études, de milieux dans lesquels elles ont lancé leur projet. Donc du coup, j'ai à la fois des femmes qui ont monté une boîte dans la tech. Donc par exemple, j'ai reçu Céline Lazorte, mais j'ai aussi reçu professeur Francine Leca, qui est la première femme chirurgien cardiaque en France et qui a monté une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'ai aussi reçu une des productrices de cinéma. J'ai reçu aussi Axel Tessandier, qui du coup a un parcours assez éclectique dans plusieurs domaines, dans la politique et aussi auteur. Enfin voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité des profils.
Pourquoi est-ce que tu as choisi de n'interviewer que des femmes ?
Alors, de manière assez intuitive, c'est vrai que je m'identifiais plus à des parcours de femmes. Et ensuite, je voyais bien que quand on interviewait des entrepreneurs, c'était quand même souvent des hommes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant uniquement des femmes, même si dans deux ou trois épisodes, il y a des hommes qui ont été invités à parler, mais c'est quand même une majorité de femmes. Et l'idée, c'était justement en fait de leur donner la parole, mais sans avoir de prisme de « en tant que femme, comment ?» blablabla. L'idée, c'est vraiment de dire « en tant qu'entrepreneur, parle-moi de ton parcours. » Et si elle a envie de me parler d'elle en tant que femme, elle peut le faire. Mais c'est pas le prisme que je prends. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de donner la parole à des femmes, parce que c'était pas le cas forcément dans d'autres médias.
Il n'y a quasiment que des femmes qui sont invitées à raconter leur parcours dans Génération XX. Pourtant, ce podcast n'affiche pas autant que les autres son positionnement féministe.
Je pense qu'il faut définir ce que féministe veut dire. Si féministe, c'est vouloir l'égalité économique, sociale, etc. entre les hommes et les femmes. Si je prends la définition comme ça, oui, je pense que le podcast, il est féministe parce qu'il met en avant des femmes, il leur donne la parole. Et en fait, il y a aussi une autre définition du féminisme qui m'intéresse, c'est de dire, c'est de donner en fait la liberté aux femmes. Et je pense que c'est ça aussi le podcast, c'est leur donner la liberté de s'exprimer comme elles veulent, avec les mots qu'elles veulent, et de pas, et en tout cas moi, ce que j'essaie de faire, c'est de moins biaiser le discours et voilà, les laisser libres de s'exprimer sur elles et sur leur parcours.
Tu n'es pas journaliste ni particulièrement spécialisée dans la prise de son. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te tourner vers le podcast comme format ?
Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur pour les podcasts. Donc, comme je te disais, parce que j'ai écouté des podcasts américains, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'on n'était pas distrait par l'image. On avait accès à du contenu long, mais qui était agréable à écouter, c'est-à-dire, enfin, et agréable et pratique à consommer. C'est-à-dire que, par exemple, un article qui fait des pages et des pages, bon, il faut quand même se poser, il faut être disposé à le lire. Alors que là, un podcast, tu peux écouter une heure d'entretien alors que t'es dans le métro, t'es dans l'avion, et donc t'as pas besoin d'avoir une disposition particulière, t'as pas besoin d'avoir un objet entre les mains, tu peux faire ça en courant, etc. Donc c'était à la fois le côté, on peut avoir un témoignage qui est long, et le côté très pratique de pouvoir l'écouter et de pas être distrait par autre chose que vraiment ce que la personne dit. Il y a aussi un côté intime qui m'intéressait énormément parce que, comme je te disais, moi, ce qui m'intéresse dans Génération XX, c'est vraiment que les femmes se confient sur leur parcours et pas dans le storytelling, tu vois, sans raconter, sans en faire des caisses. C'est vraiment de se livrer de manière sincère sur leur parcours. Et je trouve que par la voix ne ment pas. Je trouve qu'on entend quand une personne est dans un discours très formaté ou quand elle se livre, elle a peut-être des hésitations, une voix un peu plus tremblante. Enfin voilà, et c'est ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire en sorte que les auditrices et les auditeurs puissent voir les subtilités un peu de la voix de l'invité et être vraiment dans une ambiance hyper intime et de confession, enfin de conversation, hein, sans que ce soit non plus un divan de psy. Et effectivement, je ne suis pas journaliste ni spécialiste dans la prise de son, donc au tout début, ça m'a joué des tours parce que c'est un métier et que effectivement, même si on veut être dans la conversation et dans quelque chose de très naturel, ça se prépare énormément en amont. Mais justement, en fait, je pense que j'avais la naïveté de me lancer et j'ai tâtonné, j'ai appris de mes erreurs, je me suis réécoutée, j'ai écouté d'autres podcasts et puis j'ai petit à petit trouvé mon style. On t'invite souvent à parler à des panels autour des femmes et de la tech. Mais toi, c'est quoi ton rapport à ça ? On en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement, où je te disais que moi, j'étais allée à plein de conférences où la première question qu'on posait aux femmes, c'était « Quelles difficultés tu as rencontrées en tant que femme ?» ou « Comment, en tant que femme, fais-tu pour gérer ta vie privée et ta vie professionnelle ?» Qu'est-ce que tu as envie de dire sur
non,
ce sujet ?
Non, mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment arrêter avec cette question.
On est d'accord. Hein.
Mais ouais, parce que tu sais, elle est posée comme si c'est un peu genre, elle est coup de projecteur sur, tu vois. Qu'est-ce qu'elles vont dire ? Alors maintenant, on va donner la parole aux femmes. Sauf que, ouais, enfin, les femmes, ça fait des générations et des générations qu'elles travaillent. Enfin, donc moi, j'innove pas du tout. Tu vois, ma mère travaillait, ma grand-mère travaillait. Il y a 100 ans, il y a des femmes qui travaillaient. Donc pour moi, c'est pas du tout un sujet d'être une femme et d'être entrepreneur ou d'être une femme et de travailler.
Quels enseignements tu as tirés des deux années écoulées, des deux saisons que tu as diffusées, à la fois sur le podcast, puisque tu expliquais que tu as appris en même temps que tu faisais, et peut-être aussi plus largement sur l'entrepreneuriat ou sur les femmes qui entreprennent ?
Sur le podcast, comme on le disait tout à l'heure, à la base, moi, je suis pas journaliste ni spécialiste de la prise de son. Donc, ce que j'ai appris, c'est que on apprend en faisant, qu'on pouvait se perfectionner, qu'il y avait énormément de ressources sur Internet. Enfin, moi, je me suis nourrie de tutoriels sur comment monter. J'ai écouté beaucoup de podcasts américains pour un peu voir comment est-ce qu'ils interviewaient. Donc voilà, ça m'a appris qu'on peut se perfectionner, qu'on peut apprendre à poser sa voix, enfin ce genre de choses. Et puis l'enseignement aussi que je tire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le podcast, ça n'est que de la voix, et pourtant moi, le réseau social sur lequel j'ai le plus d'interactions avec les auditrices et auditeurs, c'est Instagram, qui est un réseau visuel. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que à travers des images, on peut quand même véhiculer l'esprit qu'on insuffle avec le podcast. Donc moi, comme je disais, donc c'est des femmes, c'est l'entrepreneuriat, c'est un esprit qui donne envie d'agir, un esprit bienveillant, et en fait, tout ça avec des images, on arrive à le transmettre. On met des images des coulisses, on met des images des invités, enfin, donc on peut vraiment créer un lien. Et donc en fait, je trouve qu'avec le podcast, il y a vraiment un lien très fort qui se crée avec les auditrices et auditeurs. Et moi, maintenant, il y a des auditrices que je connais parce qu'en fait, à chaque fois qu'un épisode sort, ben, elles font une story sur Instagram, elles m'envoient un petit message pour me dire ce qu'elles en ont pensé. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très... Enfin, il y a une vraie proximité qui s'installe. Et même les invitées me le disent, en fait. Elles me disent qu'elles ont d'excellents retours après leur passage dans le podcast, qu'elles n'ont pas forcément, par exemple, quand elles passent à la télé ou dans des médias, où les gens ont l'impression qu'elles sont plus inaccessibles, en fait. Et de les entendre dans le podcast, qui est mené par quelqu'un comme mes auditrices qui ne sont pas forcément connues, enfin voilà, moi qui ne suis pas forcément journaliste, ça rend la personne en face plus accessible. Et donc, du coup, il y a des conversations qui se créent, il y a des liens qui se créent, il y a des auditrices qui ont trouvé des stages chez mes invités, il y a deux invités qui ont investi dans la boîte de l'une de l'autre. Enfin, il y a des connexions hyper intéressantes qui se créent parce qu'il y a cette proximité qui, je pense, vient du format, enfin de la voix. Donc ça, c'est hyper chouette.
Vous êtes sur l'atelier des médias, vous écoutez RFI. Après avoir entendu Lorraine Bastide et Siham Jibril nous présenter chacune leur podcast, nous sommes maintenant avec Charlotte Bien-Aimée.
Je crois que j'ai toujours voulu faire de la radio et j'ai toujours voulu faire du documentaire. Je me suis beaucoup posé la question d'où ça venait, mais même quand je me suis lancée dans les études de journalisme, je savais que je voulais faire des émissions documentaires plus que du news, parce que je voulais. J'ai toujours eu envie de donner la parole, de faire des choses longues, d'avoir la place pour le son, pour les ambiances, pour restituer la vie telle qu'elle est. Je crois que j'avais aussi en tête des émissions que j'aimais beaucoup, que j'écoutais avant, comme La Bastille, j'y suis, ou Les Pieds sur Terre à France Culture. Avant ça, j'ai une grand-mère qui faisait des de sa vie sur des cassettes. J'y ai pensé après coup parce que j'ai fait une émission dessus pour Arte Radio. C'est une de mes premiers documentaires radio sur ma grand-mère qui était aveugle et qui racontait ses histoires de vie sur des cassettes. Et donc j'ai fait un documentaire parce que moi, je lui racontais aussi ma vie de toute petite fille. On se parlait par cassette, quoi, comme elle ne pouvait pas lire ni voir nos dessins. Et je pense que ça a peut-être joué aussi dans mon envie de faire du son et de la radio. Puis je faisais beaucoup de musique aussi. Donc voilà, j'ai tout de suite pris cette voie. Et juste après mes études, j'ai fait un stage à France Culture et j'ai tout de suite voulu travailler au pied sur terre à France Culture, et voilà, ça a commencé comme ça.
En 2014 et en 2015 sur France Culture, tu as produit Nazaouillette, qui est une double série qui donne la parole à des femmes qui ont vécu la révolution arabe, puis des femmes en France. En 2016 ensuite, la grande traversée Women's Power, 5 épisodes sur le féminisme. Pourquoi déjà à l'époque où c'était pas encore très présent dans le paysage médiatique, pourquoi à cette époque as-tu voulu aborder ces sujets féministes?
Je crois que je suis venue au féminisme à travers en Tunisie, en fait, au moment de la révolution, justement, parce que j'étais là-bas pour faire des émissions pour Les Pieds sur Terre, pour France Culture, sur la révolution. Et je me suis rendu compte autour de moi que beaucoup de manifestants étaient en fait des manifestantes et que je voulais absolument donner la parole à ces femmes qu'on entendait peu et qui étaient très présentes dans les manifestations, des très jeunes femmes au parcours très différent. Et en plus, en creusant, voilà, en me lançant là-dedans, je me suis rendu compte qu'elles menaient une double révolution, parce qu'elles menaient aussi une révolution dans leur vie à elle, en plus de la révolution. Donc vraiment le politique et l'intime, le personnel, je suis rentrée dans le féminisme par là. Je pense que du coup j'ai revu aussi la question des luttes sociales. J'ai fait beaucoup d'émissions autour des luttes sociales en France, les grèves d'usines, les manifs, etc. Et c'est vrai que ça, j'avais jamais voilà, vu sous l'angle, sous le prisme des gens, justement, penser, et les femmes des ouvriers continentales, qu'est-ce qu'elles font pendant que les ouvriers continentales y manifestent, ou, et les femmes qui manifestent, comment elles s'organisent, elles, parce que la majorité des femmes s'occupent de la maison, des enfants, enfin, en tout cas, la majorité de tâches leur revient, donc comment elles s'organisent. Il y avait, voilà, tout ça, par exemple, ça m'a paru assez évident. Mais en fait, dans tout, la question du sport, je m'étais jamais posé, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, je m'étais jamais posé la question de la place des femmes dans le sport. En fait, tout change, quoi, la relation au corps. Et donc voilà, au départ, c'était vraiment ça, donner la voix à ces femmes qui sont très souvent vues dans les médias ou de manière stéréotypée, et je voulais casser cette image-là. Puis après, j'ai retourné un peu le miroir et j'ai voulu donner la parole aux femmes en France, à la fois des femmes d'origine maghrébine, ou, voilà, mais aussi, pas forcément, quoi. Enfin, j'ai voulu faire vraiment un mélange. Et voilà, petit à petit, je suis rentrée dans le féminisme par là. Et une fois, comme beaucoup de féministes le disent, une fois qu'on découvre le féminisme, on ne voit plus la ville de la même façon et on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses dont il faut parler. Et donc j'ai après voulu creuser dans l'émission Women's Power, donc il y avait 10 heures d'émission sur le féminisme. Donc petit à petit, en fait, j'ai avancé, puis je continue à avancer, et en fait ça, c'est infini, quoi. Il y a toujours, dans chaque sujet, il y a 1000 sujets, parce qu'en fait c'est voir tous les sujets de la société sous le prisme du genre. Donc en fait, une fois qu'on commence, voilà, ça semble infini.
Faut sourire, faut écouter les blagues des cons, c'est partout, faut être féminine dans tout ce qu'on fait, de toute façon.
Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée, numéro 2, Les combattantes.
Ok, vous mettez les gants. Et donc nos cibles autorisées, donc le front, les épaules, plexus, ventre. Alors, c'est parti, boxe.
Je me souviens de l'odeur du gymnase, des crissements de nos baskets sur le revêtement, des cris d'encouragement pendant les matchs, des souffles et des victoires, des défaites et des solidarités de vestiaire.
Ça chauffe, hein?
Juste un peu seulement.
Allez, on regarde.
Je me souviens de la force dans mon bras, du plaisir profond quand je marquais un but, la vitesse et les arrêts, le bonheur de me sentir vivante, puissante, fière de ne pas avoir peur des coups, des bousculades et des batailles.
C'est le mouvement d'impulsion-répulsion, le poids du corps.
J'étais arrière-droit au handball.
Passe, avant, arrière.
Ça m'a accompagnée, façonnée, portée pendant toute mon adolescence. Je n'y avais jamais repensé avant de rencontrer les boxeuses.
Tu rebondis au sol.
Mais surtout là pour parler d'un podcast à soi qui est donc diffusé depuis le 4 octobre 2017 sur Arte Radio. C'est quoi ce podcast ?
L'idée, c'était de faire entendre à la fois des témoignages personnels très intimes, donc du personnel, et puis de politiser ces questions-là en faisant entendre aussi des chercheuses pour diffuser aussi toutes les théories, les recherches qui foisonnent actuellement sur le genre et qui sont, à mon avis, très peu diffusées dans la société et dans les médias. Et je trouvais important de lier les deux. C'était aussi un peu un prolongement du travail que j'avais commencé à France Culture, c'était de mélanger à la fois des choses très concrètes et de l'analyse, et sans être dans une question surplombante ou de commentaires des témoignages, mais vraiment que ce soit lié, et puis aussi d'ailleurs ajouter des textes littéraires, poétiques, parce que voilà, je trouve que ça en dit beaucoup et ça permet de décaler aussi le propos. Et de manière générale, c'est d'être un outil de réflexion sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, de comment on peut déconstruire les stéréotypes sur qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est être un homme, c'est quoi le féminin, le masculin, comment tout ça s'allie. Souvent, il y a des gens qui me disent « bon bah c'est un podcast pour les femmes ou c'est un podcast de femmes ». Je dis toujours absolument non, quoi, pas du tout, quoi. J'ai envie d'un lieu spécifique pour que ces questions sur le féminisme, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le genre, les genres, puissent être réfléchis, abordés, recontextualisés, triturés dans tous les sens, et que ça puisse donner des outils à chacun et chacune pour pouvoir aller plus loin et voilà. Et puis aussi voilà, une diffusion sur les savoirs en fait qui existent et que je trouve sont restent dans le milieu universitaire parfois, et des thèses absolument magnifiques ou des livres extraordinaires qui sont pas je trouve assez traités. Et je trouve aussi c'est important d'avoir un lieu spécifique pour ces questions-là, parce que autant je trouve ça très important que toutes ces questions elles soient abordées dans toutes les émissions, dans les émissions sur l'économie, il faudrait voilà, je trouve que c'est l'économie, les sciences, le sport, je trouve ça très important d'aborder la question des relations hommes-femmes, du féminisme. Mais autant, en parallèle, je trouve extrêmement important d'avoir un lieu spécifique pour ça, je pense, parce qu'on en a besoin. Enfin, c'est la moitié de l'humanité. Voilà, je trouve que ça manque cruellement. Et encore maintenant, même si c'est en train de beaucoup bouger cette année, je trouvais qu'il manquait un lieu pour se retrouver là-dessus, quoi. Voilà.
Parmi les projets présentés aujourd'hui, un podcast à soi est le seul qui n'ait pas pris le format d'une conversation. Dans chaque épisode, Charlotte Bien-Aimée mêle reportage, texte littéraire choisi avec soin et intervention de spécialistes. Elle y garde un ton très personnel, mais elle innove, elle mène l'enquête.
Depuis quelques années, il y a beaucoup la prise de position des producteurs qui maintenant s'affirment, enfin on entend leur voix, etc. Mais je crois que le podcast, il y a quelque chose encore plus que ça, on va encore plus loin. Je ne pense pas que j'aurais forcément utiliser cette forme-là si ça avait été dans une radio et pas en podcast, c'est-à-dire de parler d'un point de vue particulier, de mon point de vue à moi, de dire, d'expliquer d'où je viens, d'où je parle et de m'interroger moi-même sur le sujet que j'aborde. Et ça, je pense que c'est quand même aussi propre au format podcast. Ouais. C'est pour ça aussi c'est aussi très utile pour le féminisme, parce que le féminisme, c'est aussi ça, c'est s'interroger toujours, se déconstruire tous les concepts, tous les stéréotypes, et se déconstruire soi-même sur plein de choses. Donc je trouve que ça me paraissait important et même essentiel que je sois là, quoi. Enfin, que je m'interroge moi. D'où l'idée que c'est hyper important d'être spécialisé sur ces questions, parce que c'est comme ça qu'on peut creuser, qu'on peut aller loin, et que c'est pas une forme de militantisme ou de prise de parti. Je pense que c'est juste faire son boulot correctement. Et je pense à ça parce qu'il y a des collègues à moi aussi qui travaillent sur les questions LGBT de façon plus précise. On leur dit ça aussi. On leur dit, mais c'est de l'engagement, c'est du militantisme. Je pense que c'est peut-être de l'engagement, mais je pense que c'est aussi, comme on est spécialisé de l'économie, des sciences, on est spécialisé en politique, on est journaliste politique, ben, je trouve que c'est très important de pouvoir connaître et maîtriser son sujet qui est extrêmement riche, et concepts qui sont parfois aussi difficiles à aborder et dont on a besoin d'avoir du temps pour les assimiler et pouvoir les partager correctement.
Est-ce que le format podcast précisément apporte quelque chose de particulier au féminisme ?
Oui, alors justement, je suis arrivée dans le podcast récemment. Moi, pour moi, c'était un prolongement de mes émissions documentaires que je pouvais faire ailleurs, notamment à France Culture. Donc, je voyais comme ça au départ. Et en fait, au fil de l'année, je me rends bien compte qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment particulier. J'ai l'impression, surtout dans les retours que les auditrices et les auditeurs me font, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une appropriation du podcast. C'est une impression de, on l'emmène dans sa poche. Et puis, il y a aussi un sentiment d'appartenance à peut-être une certaine communauté. On choisit, on sait ce qu'on va écouter, on choisit ce qu'on va écouter, c'est pas le flux de la radio. Alors après, il y a aussi, dans la radio hertzienne, il y a aussi après des podcasts qui sont créés en second, mais j'ai l'impression que le podcast, comme le son, est parfait aussi pour le féminisme, parce que il y a un besoin, voilà, d'identification, de sentir appartenir à une communauté ou d'un groupe qui tend à vouloir réfléchir sur ces questions-là. Et je pense que le son, le podcast et le féminisme, c'est l'alliance parfaite.
Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée a repris le 5 septembre dernier, dans le dernier épisode « Ainsi soit-elle ». Vous pouvez entendre une féministe musulmane, une femme rabbin et une religieuse lesbienne parler des femmes et de la religion.
Plusieurs des podcasteuses que j'ai interrogées regrettent de voir leurs émissions catégorisées « féminines ». Mais l'une d'entre elles a trouvé le moyen de démontrer que le féminisme est aussi une affaire d'hommes.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Une partie essentielle du marbre. Voilà, on les met là.
Je m'appelle Victoire Tuaillon. Je suis une jeune femme blanche, hétérosexuelle et féministe. Et je veux parler des hommes. On va regarder ce que c'est cet attribut de la virilité, cette chose qu'il est bon de posséder, puisqu'il est bon d'en avoir. Qu'est-ce que c'est, au juste, un homme ? Qu'est-ce que ça implique d'être un homme ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui en France, au XXIe siècle ? Qu'est-ce que c'est la virilité ? Un homme, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait.
C'est élémentaire, c'est bon.
Il faut parler des petits garçons, des pères, des frères, des cousins, des voisins, de nos amis, de nos amants.
Cette émission, c'est pour les hommes qui se posent des questions sur eux-mêmes, pour les femmes aussi en fait. C'est une émission pour tout le monde. Ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seul le soir. Il faut parler des hommes pour comprendre dans quel monde on vit.
Voilà, on les met là.
Les couilles sur la table. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je suis journaliste chez Binge Audio, je suis aussi membre du collectif Les Journalopes et j'anime un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table et qui est consacré aux masculinités et aux virilités. Alors, Les couilles sur la table, c'est un podcast de conversation. Deux fois par mois, donc dans chaque épisode, j'invite une ou un spécialiste des masculinités. Donc, en général, ce sont des universitaires, sociologues, anthropologues ou des activistes, des militants, qui ont étudié un aspect particulier des masculinités. On entend par masculinité ce qui a rapport aux hommes ou aux personnes considérés comme des hommes dans la société. Donc très concrètement, ça donne des sujets comme qui sont les harceleurs au travail. Qu'est-ce qu'on sait des personnes qui sont harceleurs? Alors il se trouve que la majorité des harceleurs au travail, l'immense majorité, ce sont des hommes. Donc je considère que c'est un sujet qui rentre complètement dans le propos des couilles sur la table. Et l'idée en faisant ça, c'est de se poser des questions et de questionner ce qui en général n'est jamais questionné, puisque on vit dans une société patriarcale où les hommes sont considérés comme la référence, le neutre, et donc on ne considère pas les hommes en tant qu'hommes, on ne questionne pas leur masculinité parce qu'elle va de soi.
Dans ses émissions, Victoire Tuaillon explore par exemple le sujet de l'amour. Pourquoi apprend-on aux petits garçons qu'ils ne doivent pas montrer leurs sentiments? Elle réfléchit aussi à la façon dont on éduque les hommes à être virils ou encore à ce que cela signifie dans la vie quotidienne d'être un homme gay. Victoire est interrogée par Mathilde Saliou pour l'atelier des médias.
Qu'est-ce qui t'a mené, toi, Victoire Tuaillon, à t'intéresser aux hommes en particulier?
En fait, depuis l'adolescence, peut-être l'enfance, les questions féministes m'intéressent, me passionnent. Et j'avais l'impression que si la perspective des femmes est assez bien décrite dans le milieu féministe, c'est-à-dire qu'on connaît l'ampleur des violences, le vécu féminin, etc., il y a une revalorisation très importante de cette parole-là dans le mouvement féministe, ce qui est indispensable, génial, puisque ça manque dans la société. On ne retournait pas le regard, c'est-à-dire qu'on ne posait pas de questions sur les hommes, alors que les femmes sont victimes d'un certain nombre de phénomènes. Mais s'il y a des victimes, c'est bien qu'il y a des personnes qui commettent, dans le cas des violences, qui commettent ces violences, et donc ce sont les hommes. Donc il faut aussi questionner ça. Et ça m'intéressait aussi personnellement, parce qu'en fait, on vit tous ensemble, et il y a assez peu de textes qui discutent de la masculinité, il y a assez peu de gens qui y réfléchissent, alors de plus en plus. Mais le seul discours qui existait sur les hommes, c'était des hommes inquiets, c'était un discours sur la masculinité en crise, sur une masculinité qui serait perdue, mise à mal par les conquêtes féministes, etc. Et donc ça me paraissait indispensable de tenir un autre discours, parce que voilà, pour moi, celui-là n'était pas c'était pas la vérité.
En faisant ça, sachant que tu es femme, tu t'identifies comme femme, etc., t'es en train de me dire oui de la tête, t'es presque en train d'interroger l'autre avec un grand A philosophiquement. Est-ce que ça a été compliqué pour certains sujets?
Oui, en fait, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite, qui est « mais pourquoi c'est une femme qui questionne les masculinités ? Est-ce que ce serait pas aux hommes de le faire et tout ?» Je lui ai dit « oui, bien sûr, le truc, c'est qu'ils le font pas, en fait. » Donc c'est pour ça que moi, ça fait très longtemps que j'ai ce projet. Plein de gens m'avaient dit que c'était une mauvaise idée, que c'était pas intéressant, que c'était trop étroit, qu'au bout de deux épisodes, il y avait plus rien à raconter et tout ça, alors que je pense que c'est infini, en fait, le nombre de choses qu'on a à raconter là-dessus. On a de temps cette perspective-là. Et est-ce que ça complique certains de mes sujets? En même temps, il y a assez peu de paroles personnelles, et ça me paraît important dans le podcast. C'est-à-dire que moi, je suis engagée, j'hésite pas à raconter des trucs un peu sur ma vie et tout, mais les personnes que j'invite, donc des universitaires et tout ça, ils ont une parole, eux aussi, ils savent d'où ils viennent, ils savent de quel genre ils sont et d'où ils parlent, etc. Mais voilà, c'est pas un podcast de témoignage, quoi. J'invite pas des hommes à parler de leurs ressentis intimes et tout. Je pense que c'est pas un problème à partir du moment où je sais d'où je parle en termes de genre, mais aussi de classe, de race et d'autres critères sociaux. Voilà.
Tu as réalisé des épisodes sur les masculinités noires. Il y a un épisode aussi avec Viken qui est un homme transsexuel. Pourquoi c'était important de s'attarder sur ces catégories précises de personnes ?
Oui, alors c'est pas tellement des catégories, mais c'est alors c'était important et je vais continuer à le faire. Hein. C'est très important pour moi d'être plus fine dans l'analyse des rapports de pouvoir parce qu'on sait bien que le genre n'est qu'une des modalités des rapports de pouvoir dans la société et qu'il y a aussi d'autres rapports qui comptent. Par exemple, les rapports de domination, c'est aussi des rapports de race et de classe. Et il y en a d'autres, mais quand même, c'est le genre, la race, la classe, c'est très important. Et donc, oui, ça me semble important de prendre en compte le fait que tous ces rapports de force interfèrent entre eux. Et donc, les masculinités noires en France, c'est différent d'être un homme noir ou d'être un homme blanc. C'est pas les mêmes rapports de pouvoir et c'est pas les mêmes contraintes et c'est pas les mêmes conditions, etc. Donc, oui, ça me semble très important parce que sinon, le risque, c'est de penser la domination masculine comme un bloc et de dire les hommes. Alors, parfois, je le dis peut-être, mais dans ma tête, les hommes, ça veut toujours dire c'est pas un bloc, quoi. Il faut regarder comment sont articulées les masculinités. C'est pour ça qu'on parle des masculinités au pluriel. Je dis jamais la masculinité au singulier. Et donc, ça, j'emprunte à la grande théoricienne des masculinités, qui est Rowan Connell, qui a bien montré que c'était des processus dynamiques, en fait, les rapports de force, qu'il y avait plusieurs types de masculinité et qu'il s'agissait bien de les prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si vous êtes un homme blanc, riche, hétérosexuel en France, que si vous êtes un homme noir, homosexuel et pauvre. C'est carrément pas la même chose.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'homme idéal à Rome ? À quoi est-ce qu'il ressemblait ?
Oui, on aurait pu aussi partir de la Grèce, où ils avaient aussi un modèle de ce qu'ils appelaient l'andreia, c'est-à-dire la virilité idéale. Et en fait, les canons ont été établis en Grèce, et puis ils ont été parfaits à Rome. Ce sont des canons qui sont d'abord des canons de beauté physique. C'est très important de rappeler que il y a cette idée que le meilleur du matériau humain, la perfection humaine, c'est le corps masculin. Donc il faut présenter évidemment des épaules larges, il faut être grand. Ah, donc il y a des canons évidemment physiques et il y a aussi des canons qui sont introduits par la morale stoïcienne notamment et qui sont des canons de moralité. C'est-à-dire que Hercule, qui est le meilleur représentant de l'andreia grec, il est évidemment valorisé et admiré pour ses qualités de force physique, de puissance, de musculature, sa musculature magnifique, etc. Mais aussi pour son courage, son opiniâtreté, sa valeur morale, sa bravoure, sa combativité. Mais ça revient, mais c'est toujours la même idée de puissance et de maîtrise.
Oui, d'autocontrôle en fait, d'auto-répression, d'être capable de se maîtriser, de se gouverner.
Oui, et de gouverner surtout. En fait, c'est ça qui les place au-dessus de la femme, parce que la femme est réputée colérique, irrationnelle, irréfléchie, impulsive, par opposition à un homme qui, lui, se pense toujours comme maître de ses émotions et de ses sentiments. Et ce que va introduire le stoïcisme, c'est cette idée qu'un homme viril doit apprendre à supporter la douleur et même désirer la mort. On va peut-être y venir quand on va parler du service militaire. Mais cette idée d'autorépression du sentiment, ne jamais rien montrer.
Jusqu'ici, les podcasts traitaient de sujets de niche autour desquels ils réunissaient des communautés soudées. Pourtant, La Poudre, Génération XX, un podcast à soi et Les Couilles sur la table fédèrent autour d'une thématique large qui infuse à tous les niveaux de la société, la place des femmes et l'égalité. S'ils ont du succès, c'est probablement qu'ils répondent à une vraie attente, qu'ils apportent des informations que l'on ne trouve pas ailleurs. En fait, la multiplication et le succès des podcasts féministes montrent qu'il y a à la fois différentes manières de parler de l'égalité entre les femmes et les hommes et un auditoire pour les écouter. Si ces questions vous intéressent, vous l'aurez compris, quantité d'émissions vous permettront de les explorer. En plus des projets évoqués aujourd'hui, vous pouvez par exemple écouter Quad Meuf, produit par Nouvelles Écoutes,
ou encore sur leurs lèvres, une collaboration entre Nova Spot et Chic Magazine.
Quand le féminisme rencontre le podcast, c'était une émission de Mathilde Saliou, Simon Decreuse et Ziad Malouf pour l'Atelier des médias. En coulisses, Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. Vous pouvez retrouver les pages web des podcasts évoqués aujourd'hui sur la page de l'Atelier des médias du site de RFI et sur atelier.rfi.fr. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Salut à toutes et à tous.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all.
RFI.